nouveau fils. Au petit matin suivant, Senec se présente devant ma tante, le sourire aux lèvres. « Une balade ? » propose-t-il sans même descendre du cheval. Nous partons au pas, plein ouest, poursuivant nos propres ombres, étirées au sol, comme deux sentinelles discrètes à travers la plaine. « J'ai entendu dire que tu avais eu de la visite. »«
Visite ?»«
Ilga, la fille du disparu Taor, la sœur de Unzuk, le chasseur. »«
Je ne savais pas qu'elle s'appelait Ilga. »«
Pourquoi est-elle venue te voir ?»
Je suis tellement surpris par cette question que j'arrête Arzan.
En 15 ans, Senec n'a jamais exprimé la moindre curiosité sur ma vie privée. En tout cas, jamais de manière frontale. C'est la première fois qu'il m'interroge directement et il n'a plus le sourire qu'il arborait en arrivant.
Pourquoi cette question ?
Ilga est promise à un autre. À sa mort, son père Taor a renoué avec une vieille tradition patriarcale, aujourd'hui critiquée par les femmes. Il a investi son fils Unzuk d'une mission. Garder sa sœur de toute relation sérieuse jusqu'à son mariage, prévu en dehors de notre tribu. Mais certains ont remarqué qu'elle est venue te voir. Et même si cela n'a duré qu'un court moment, ils en ont déjà parlé. Ce n'est pas anodin qu'elle soit venue jusqu'à ta tante. Unzuk n'est rentré de la chasse qu'hier, mais il l'apprendra et te posera les mêmes questions que moi. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle est venue me voir. Elle ne m'a rien dit. Senec fait la mine de celui à qui on ne va pas mentir, puis s'arrête net, sachant bien que je ne saurais pas lui cacher la vérité. Il me regarde, pensant avoir trouvé la seule réponse possible à son énigme. Alors peut-être que Ilga avait une demande chamanique pour toi et que tu la tais en vertu du secret ?
Non, ça aussi je te le dirais. Même sans préciser de quoi il s'agit.
Sans doute a-t-elle voulu voir de plus près qui est le nouveau fils de Otarianat. C'est tout.
Mais ce n'est pas normal qu'elle soit venue jusqu'à toi.
J'ai pas dit que ça l'était. Senec me regarde de nouveau et détecte mon émotion. Son sourire lui revient quand il ajoute. Ça n'est jamais totalement simple avec toi. On verra bien ce qu'en disent les esprits. Pas vrai, grand frère ? Et d'un cri vif, il lance son cheval au galop, m'invitant sans un mot à une course effrénée, tout comme lors de notre première balade quand il n'avait que 13 ans et moi 20. Tombé de cheval en pleine ruade, Senec s'était cassé le poignet gauche jusqu'à en garder pour toujours une articulation déformée en escalier. Je me sentais en partie responsable de l'accident et voulus plus que tout l'aider, mais sans savoir comment. Mes mains pourtant étaient souvent attirées vers sa fracture, comme pour le soulager, voire le réparer. Je croyais alors être venu pour 15 jours seulement, afin de participer à un travail bénévole auprès de certains troupeaux, en échange de l'accueil dans une tribu nomade d'éleveurs de rennes. Pour 2 semaines, avant de retourner à Paris, rien de plus. Mais je m'étais tout de suite senti chez moi. 15 années avaient passé et je restais marqué par la clairvoyance avec laquelle Otarianat m'avait dit, dès notre première rencontre, alors que je croyais simplement parler à l'une des doyennes du clan et non à son membre le plus important. « Je te vois, mais toi, tu devras venir me consulter. » et revenir bien des fois, afin de vraiment me voir et te connaître, enfin te reconnaître. L'arbre du monde. Il a bientôt 7 ans. Dans le préau d'une école parisienne, les élèves sont assis en tailleur face à la corde à grimper. Il a l'impression de ne pas faire partie du groupe. Appelé, il se lève. Son cœur bat plus fort. Il s'avance vers le professeur et l'axe vertical qu'il enserre de ses 2 mains avant de s'élancer.
Le plafond du gymnase est haut. Mais quelques mouvements pour monter, toucher la tâche et redescendre ne devraient pas prendre longtemps. Il se hisse et respire plus fort. 1 ou 2 mètres encore. Soudain, se surimpose à cette corde l'image d'un arbre isolé en pleine taïga, auquel il grimpe également. En lui-même, il se dit l'arbre du monde. Quand tout à coup, l'espace s'ouvre. Par le haut, à son corps, à son âme, à son ouïe, mon monde. Détends-toi, tu as l'éternité pour t'accomplir, mais ouvre les yeux, car elle se joue maintenant, toujours maintenant. Il entend de plus en plus clairement cette voix intérieure au timbre merveilleux. Et pratiquement plus le maître et les autres élèves. Le professeur le somme de redescendre. « Reviens à la fin !» En vain. Les rires des enfants redoublent, mais eux aussi finissent par s'estomper à l'arrière-plan. Il s'agrippe à la corde pendant que la voix le traverse. Il n'en peut plus d'effort et d'extase. Il n'y a pas de mots pour autant. Le cours du temps reprend. Quelques mouvements descendants et le voilà de retour sur terre. Changé pour toujours. Mais que s'est-il passé? La première fois, foudroyé de l'intérieur, monde en suspens, extase articulée. Il suffit d'un instant pour t'illuminer. Toute sa vie, il allait rechercher la maison de lumière. Son enfance s'écoule sans intégrer de groupe, que ce soit à l'école, en vacances ou même en famille. 9 ans passent et corde ou arbre, porte ou échelle, l'ascension vers d'autres cieux lui manque. Marqué à jamais, il se demande si cela se reproduira un jour. Alors le destin intervient sur l'île de Gianutri, à l'ouest de l'Italie. Il est avec sa petite amie. Il a 16 ans, elle 18. Le soleil et la mer, le vent, puis la tempête. Comme des enfants euphorisés, ils se déshabillent en hâte et vont danser sous la pluie battante. L'énergie pulse et l'ondée les appelle. Le tonnerre gronde et l'averse fait diluvienne. Ils courent vers la maison, la pluie redouble, la foudre frappe à proximité et les électrise. Ils se précipitent et glissent. Il tombe. Sa tête heurte violemment le sol carrelé, si fort qu'elle rebondit. Tout s'arrête. Il le sait, il le sent. Cette fois, c'est différent. Il doit y aller, s'envoler, pour les rencontrer et recevoir leur aide. Eux que l'on ne voit pas. Beaucoup d'aide, tout de suite. L'image d'une flûte le traverse et s'impose. Sa flûte. Pas seulement un instrument de musique, mais aussi de voyage, de son et de pouvoir. Il en a besoin. Maintenant, mais pour ailleurs. Ici, il ne sait pas en jouer. Là-bas, il ne saurait vivre sans cet allié. Il aperçoit un visage rayonnant. Une belle jeune fille aux yeux bridés, toute de bleu vêtue. Il croit entendre un nom qu'il ne reconnaît pas. Quelque chose comme Hilda, puis elle disparaît, telle qu'elle est apparue. L'espace se voûte, un dôme apparaît au-dessus de lui, donne les géants de lumière, dehors comme dedans. Son ami a peur, il y a eu des précédents, d'autres accidents. Il paraît déjà parti. Sa tête s'affaisse et son corps se met à trembler. De plus en plus fort. Elle est sous le choc. Il est secoué de convulsions. L'espasme ne cesse de s'intensifier. Elle ne veut pas y croire, mais sent la mort s'approcher. Et avec elle, toute la tristesse du monde. Lui sent l'au-delà s'ouvrir. Dernier soubresaut, suivi d'un spasme plus violent que les autres, avant ce qu'elle imagine être la fin. Puis plus rien, totale immobilité, terreur en la jeune femme qui aime. Elle ne l'entend plus respirer, une minute, deux minutes. Quand soudain il revient, regard clair, voix posée, énergie transformée. Il demande qu'elle lui souffle sur la tête, le crâne, la fontanelle, en fait le trou secret, comme l'appelle Otarianat. Cette expiration soufflée lui rappelle la flûte qui lui a tant manqué, mais déjà le souvenir de l'au-delà devient insaisissable. Il rentre d'un profond voyage et a enfin compris. Il ne veut pas savoir quoi, mais il le sent. Intérieurement, comme tout autour de lui, autant qu'il se sent vivant, retrouvant l'invisible et ne reconnaissant presque plus le visible. Il est présent, plus que jamais. Ça n'était pas le moment de rester de l'autre côté. Son ton est ancré et sa belle subjuguée. Il articule doucement « Le jour où je suis né ». Il s'était déjà évanoui de douleur, les os fracturés. Mais là, c'est autre chose. On lui a délivré un message. Pourtant, il ne sait plus lequel. Il ne peut pas percevoir les deux mondes à la fois, même s'il en meurt d'envie. Demeure ce sentiment de territoire plus que familier, de pays d'origine, de chemin mystérieux, mais connu, maintes fois parcouru. Et de Patrick sacré. La tête et l'épaule meurtrie, mais bizarrement, sans la moindre contusion. Force et spiritualité sont rappelées, réintégrées. Il perçoit tout différemment. Les murs paraissent creux et l'espace semble plein. Les lumières plus vives, les sons se propagent en ondes légèrement colorées. Le vide est devenu fécond. Il a reçu un coup sur la tête, une frappe initiatique. Chaque jour nouveau est un miracle qui s'offre à lui. On lui a sauvé la vie et en même temps réappris à vivre en quelques instants. Ému, il a mué et dit mille fois merci. Après cette façon d'initiation, 10 ans passeront avant qu'il retrouve enfin son chemin et les siens en Mongolie.